haute fréquence.
Les religions vues d'en bas.
Vendredi à 4h25 du matin, le vol AZ-827 décolle de l'aéroport de Beyrouth au Liban pour atterrir à 7h à Rome, aéroport de Fiumicino. 125 migrants syriens, fatigués par la courte nuit, leur vie dans une valise, déposent alors une demande d'asile dans la capitale italienne.
Tristan Michel, bonsoir.
Bonsoir Fabien.
Alors Tristan, vous étiez sur ce vol et c'est cette histoire que vous allez nous faire vivre ce soir.
Oui, mais en vérité, cette épopée débute bien avant ce vol, quand en 2015, la Fédération des Églises Protestantes en Italie et la Communauté Catholique de Sant'Egidio signent un accord avec le gouvernement italien, un accord qui vise à octroyer 1000 visas humanitaires à des personnes qui fuient la guerre au Moyen-Orient, principalement des Syriens et des Irakiens. Un programme échelonné sur 2 ans.
Et donc avec ce vol de vendredi, eh bien le programme a pris fin.
Oui, l'accompagnement, la prise en charge de ces réfugiés, puisqu'ils ont pour l'instant tous obtenu leur demande d'asile, durera encore sans doute quelques années. Mais oui, c'était le dernier vol, le dernier voyage pour les églises et leurs protégés, puisque le quota de 1000 visas a été atteint.
Voilà, alors bien sûr on va parler de ce voyage, mais votre voyage lui a commencé un peu plus tôt, mardi, à votre arrivée à Beyrouth, vous avez assisté à la préparation de ce vol.
Oui, ça s'est passé à l'église Saint-Joseph des Franciscaines de Beyrouth, qui abritait certaines des familles les plus vulnérables. Magnifique édifice en pierre jaune, un magnifique jardin, et dans une atmosphère studieuse, comme avant un décollage finalement. On connaît par cœur les dernières consignes de sécurité, mais on doit quand même les écouter. Mais là, il ne s'agit pas de sortie de secours ou de gilet de sauvetage, mais plutôt d'accord Dublin et de loi Schengen.
C'est bientôt
Hati. Qu'est-ce qui se passe là? On est où?
Donc, on est dans cette église où il y a une organisation qui travaille ici au Liban et qui s'occupe des droits des réfugiés qui arrivent en Europe. Et donc, maintenant, ils sont en train d'expliquer quels sont les droits des réfugiés en Italie.
Là, on voit une dizaine de personnes, des jeunes hommes, une famille. Vous leur rappelez les règles. Vous parliez en arabe tout à l'heure, c'est vous qui avez tenu la conférence, vous êtes madame
Charlotte Bertal.
Et vous travaillez pour?
Donc je travaille pour IRAP, International Refugee Assistance Project. Et donc IRAP est une ONG américaine indépendante qui apporte une aide juridique aux réfugiés les plus vulnérables partout dans le monde. Et on a un bureau ici, donc à Beyrouth.
Les migrants qu'on a vus dans cette salle pendant la conférence, c'est vous qui les avez recommandés aux églises?
On a recommandé certains des dossiers. On sait que le corridor humanitaire est financé par des églises. Cependant, ils travaillent de façon laïque et indépendamment des religions sur le terrain. C'est pour ça qu'on travaille avec eux. La majorité de nos bénéficiaires ne sont pas chrétiens, parce que tout simplement, la majorité des Syriens ne sont pas chrétiens.
Ceux qu'on a réduit... 10% environ sont chrétiens.
C'est ça. Voilà, c'est ça.
Là, les personnes qu'on a vues, c'est des personnes très vulnérables.
Voilà, c'est des personnes extrêmement vulnérables. Pour ceux qu'on a pu référer au corridor humanitaire, il y a différents types de vulnérabilités. Ça peut être des vulnérabilités liées à leur situation médicale, des gens qui ont une maladie grave, qui ne peut pas être soignée ici au Liban. Ça peut être des cas de problèmes de sécurité, des gens qui vivent ici dans des quartiers où ils n'arrivent pas à recevoir la protection des autorités libanaises parce qu'ils résident illégalement au Liban et qui ont été victimes de crimes graves, comme des victimes de viols.
Et on voit aussi évidemment des femmes, des familles, ça c'est un critère de vulnérabilité, on s'imagine bien.
Des femmes seules, sans protection masculine au Liban, peuvent être considérées comme des femmes dites à risque. Donc des femmes particulièrement vulnérables parce que dans le contexte, dans l'environnement dans lequel elles vivent ici, si elles sont seules et donc n'ont pas la protection d'un père, d'un mari ou d'un frère, elles peuvent être exploitées.
Donc vous souhaitez que cette initiative, évidemment, soit reconduite, parce que c'est le dernier vol, hein, finalement, dans deux jours.
Alors c'est extrêmement important de considérer que le corridor humanitaire, comme on dit en anglais, va « fill a gap ». Et ils sont vraiment là pour combler un manque, un trou, c'est-à-dire qu'il y a un programme de réinstallation mis en place par le HR qui est très important, mais ce programme parfois n'est pas assez rapide ou ne prend pas en compte certains cas. Donc l'initiative du corridor humanitaire est vraiment essentielle pour sauver la vie de ces gens qui ne sont pas éligibles à la réinstallation avec le HR, mais qui malgré tout sont extrêmement vulnérables au Liban ou ailleurs.
Sylvia Tourati, bon, vous m'avez un peu échappé, hein. J'ai discuté un peu à la fin de la conférence.
Oui.
C'est vous qui m'avez expliqué un peu ce qui se passait, hein, dans la salle,
oui,
avec ce bel accent italien. Je ne vous ai pas demandé de vous présenter en fait.
Et moi je m'appelle Sylvia Tourati et je travaille avec le projet des couloirs humanitaires du côté des églises protestantes. Et avec mon équipe, on n'est que 3-4 personnes en fait. Et bon, je travaille ici au Liban depuis un an et demi.
Bon, décrivez-nous un peu le cadre. Maintenant qu'on est sorti de cette pièce où on a eu la réunion, décrivez-nous le cadre où nous sommes parce que c'est particulièrement beau.
C'est le jardin de l'église. C'est une église des franciscains. On est ici dans les jardins. On a des gens qui attendent de faire les briefings.
Donc il y aura un deuxième briefing, mais les gens qui sont assis autour de nous, il y a quand même des sourires sur les visages, hein, de ces migrants tous originaires de Syrie.
Oui, en fait, ils sont heureux parce qu'ils vont partir dans deux jours, donc bien sûr un peu préoccupés, mais aussi excités pour ce départ. On peut rencontrer une famille qui est au Liban depuis des ans, composée que de femmes. Donc c'est une famille composée par une maman avec des filles, et une de ses filles a aussi une petite fille. Et ils sont dans une condition de vulnérabilité, en tant surtout que famille sans homme. Sabah al-khair.
Sabah al-khair.
Ça, c'est la mère,
et
je présume.
La mère, la
bonjour.
Dame.
Bonjour.
Sabah al-khair.
Est-ce qu'on peut dire les âges?
Adesh Amrek.
Kmeni.
Elle a 8 ans.
8 ans.
8 ans.
Arbaoshi.
Elle a 24 ans.
24 ans.
40.
Elle a 40 ans.
40 ans.
22.
Et 22 ans. Bon, racontez-moi peut-être pourquoi vous êtes ici et pourquoi vous avez dû fuir votre ville et votre pays, la Syrie.
Ils ont quitté la Syrie en général à cause de la guerre. Leur situation dans leur village était très 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 difficile. Et donc, comme beaucoup de monde, ils ont quitté la Syrie. Elles sont arrivées ici au Liban. Elle dit aussi qu'ici au Liban, la situation c'est quand même très difficile parce qu'en tant que Syriens, ils n'arrivent pas à travailler. Ils ont aussi des difficultés pour manger, pour avoir l'argent pour manger ici au Liban. Donc le problème en général pour les Syriens aussi au Liban, c'est que si les Libanais savent qu'elles sont Syriennes, ils les traitent très très mal. Il y a aussi un problème de...
Ça, Sylvia Tourati, vous le constatez aussi, peut-être cette tension entre les Libanais et les Syriens, parce qu'il y a énormément de migrants au Liban. On estime les chiffres à 1,5 million de migrants pour 6,2 millions d'habitants au Liban. Il y a des tensions vis-à-vis des migrants qui viennent de leurs voisins, la Syrie.
Bien sûr, il y a des tensions parce qu'en fait, le Liban, c'est un pays très, très petit qui a déjà des problèmes. Avec la guerre en Syrie, ils sont arrivés aussi presque 2 millions de Syriens qui sont enregistrés. Et donc, il y a toujours des tensions parce qu'en fait, il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de possibilité pour les Syriens de travailler, de s'intégrer dans cette société, même si cette société, c'est une société arabe, donc on parle la même langue, on a les mêmes habitudes.
Vous êtes caché ici avec votre famille dans ce cloître des franciscaines. Qu'est-ce qui s'est passé ?
Donc, elle se réfère à un problème de type religieux. Originairement, leur famille, c'est une famille musulmane. Alors que leur mère, avec les filles aussi, quand elles sont arrivées au Liban, elles ont changé de religion, elles sont devenues chrétiennes. Et ça, c'est très difficile pour leur famille d'origine, la grande famille. Parce qu'en fait, c'est une famille musulmane très, très observante. Et donc, si maintenant, leur leur famille les trouve ici, ça devient très dangereux pour elles. Elles peuvent être aussi tuées par la famille.
Donc elles sont cachées ici, elles fuient aussi l'ex-mari hein, qui les a pourchassées pendant un moment. On ne va pas dire où elles vont aller en Italie, évidemment, pour des raisons de sécurité. Qu'est-ce qu'elles attendent de l'Italie ?
Su ti tocca e me ne sbatte Italia su su ti fa cretamli in Italia.
Ok. اول شيء بنتي حتفوت على السكول.
Donc elle pense surtout à sa fille, elle veut que sa fille soit enregistrée à l'école et qu'elle apprenne des langues étrangères, elle parle déjà un peu de français et elle espère qu'elle va aussi apprendre l'italien.
حاشتغل حابه اعمل translated تعلم كذا لغه.
Et elle espère aussi de trouver un petit boulot pour elle. Son rêve est de devenir traductrice. Et sinon, elle sera une coiffeuse. Donc, après qu'ils ont connu le nom de la ville où ils vont aller en Italie, ils ont fait une petite recherche en Internet pour voir un peu comment est la ville. Elle connaît presque tout. Leurs valises sont prêtes déjà depuis des jours.
Bon là, Sylvia Turati, on a quitté... Oula, attention. On a quitté l'église des franciscaines et on va juste à côté dans votre bureau.
Terminer un peu l'organisation.
Administratif un peu.
Administratif du voyage, ouais.
Il y a toujours des bouchons, hein.
J'aime beaucoup avoir... des voitures. Donc, dans chaque famille, il y a 2-3 personnes avec leur voiture personnelle. Donc après, vous voyez que...
C'est bouché. Ouais. Et on manque de se faire...
Il y a aussi le problème des Syriens, parce qu'ils disent que aussi les Syriens, beaucoup de gens arrivent au Liban avec leur voiture. Et donc, il faut aussi ajouter les voitures des Syriens.
Parfois, cette tension entre Syriens et Libanais se retrouve sur la route. Hein. Moi, mon chauffeur de taxi... Quelqu'un lui a coupé la route et lui a dit « Ah, bah, ça, c'est un Syrien !»
Il y avait un jardin public et sur la porte de ce jardin, on avait écrit que c'était interdit aux Syriens. Donc les Syriens ne pouvaient pas accéder au jardin. C'est lourd.
Ouais, c'est un peu lourd, ça, ouais.
Merci.
On dirait plutôt un bureau de pasteur, là, mais avec les iconographies. Ouais,
parce qu'ici, il y a des jésuites qui habitent ici.
Et donc là, on a sous les yeux sur votre ordinateur toute une liste avec le sexe, avec la date de naissance. Finalement, au total, combien de personnes, alors ?
Donc au total, on arrive à 124
personnes. 124
personnes
dans l'avion qui vont être accueillis en Italie, déposer leur demande d'asile en Italie.
Oui, exactement.
Sur la liste, il n'y a pas la religion. Hein. Syriaque, non. Assyrien, Méronite, musulman, on ne voit pas...
Non, non, pas du tout. Pas du tout, il n'y a pas la religion. Et après, ce n'est pas difficile de comprendre la religion à partir du nom.
Parce que ouais, c'est ça.
C'est clair ici, au Liban.
Vous téléphonez à qui ?
Je téléphone à la personne, à la responsable de la communication, Gaëlle Courtens.
Des églises évangéliques italiennes.
Oui, des églises évangéliques italiennes, oui. Ciao Gaëlle, sono Silvia.
Si, Turati.
Si, chi per Libano, ciao.
Tutto bene,
bene, bene. Sono qui con il giornalista della Radio Svizzera.
Tristan.
Con Tristan, esatto. Volevamo sapere se l'Italia è pronta, insomma, se da parte vostra siete pronti per quest'ultimo corridoio.
Oui, bah écoutez, on est pronti. On se partage les réfugiés qui arrivent entre nos églises, la Fédération des églises protestantes, et puis de l'autre côté, la communauté de Sant'Egidio a préparé, a mis en place des structures d'accueil. Donc, a priori, tout doit être prêt.
Et l'intégration, voilà. Ça c'est selon qui les accueille.
Voilà, donc en fait, il n'y a pas vraiment un seul modèle d'accueil. Ce sont plusieurs façons, plusieurs modèles d'accueil. on va dire que le dénominateur commun de cet accueil est ce que nous on appelle l'accueil diffus, c'est-à-dire qu'on prend des tout petits groupes, des familles, ou bien des familles donc un peu agrandies, et on essaie de les insérer dans un contexte social italien qui n'a pas de cette façon le choc que normalement on peut avoir quand on voit des centaines de réfugiés arriver tout à coup dans un endroit et qui donc peut engendrer une peur de la part des personnes ou de la communauté qui accueille.
Tout ça, c'est les églises qui prennent en charge financièrement et puis matériellement, on va dire.
Exactement.
Vous serez là à l'arrivée pour nous accueillir.
On sera là.
Bonjour, au revoir. Ciao, ciao.
Salut à Luciano.
Grazie.
Ciao.
Ciao. Bon, ça vous rassure ?
Oui, oui. Oui, donc tu es prêt et donc on attend jeudi soir pour notre dernier moment ensemble. Du coup.
Pour la fête.
Pour la fête.
Infotrafic RTS.
Sur l'autoroute Lausanne-Genève, un accident bloque toujours la voie de gauche peu avant la sortie de Morges-Ouest en direction de Genève. Un bouchon remonte jusqu'à l'échangeur d'Écublens. Il faut prévoir près de 3 quarts d'heure de retard sur ce tronçon. Et retour à Beyrouth, en votre compagnie, Tristan Miquel. Vous aviez il y a quelques instants Gaëlle Courtens, pardon, de la Fédération des Églises Protestantes Italiennes, par liaison audio. Elle était de l'autre côté de la Méditerranée, à Rome, et elle évoquait un partenariat œcuménique.
Oui, un partenariat win-win assez complexe à expliquer, qu'on pourrait résumer ainsi. Les catholiques de Sant'Egidio ont un certain savoir-faire en matière de couloir humanitaire, mais le financement, en tout cas une bonne partie, vient de la Fédération des Églises Protestantes en Italie et de la Tavola Valdese, la table vaudoise, via le Otto per Mille.
Alors peut-être une petite explication sur ce que veut dire ce Otto per Mille en Italie.
Oui, alors le Otto per Mille, vous le dites mieux que moi Fabien, c'est en fait une part de l'impôt sur le revenu. Beaucoup d'Italiens choisissent de reverser cette taxe aux églises réformées et méthodistes. Le projet a reçu également de nombreuses aides. Hein. Côté suisse, par exemple, les Pères, l'entraide protestante, a financé la prise en charge de 50 personnes pour ce dernier voyage. Coût total du projet sur 2 ans, 2 millions d'euros. L'État italien ne débourse pas un centime.
Et alors au niveau du terrain, comment se passe la collaboration ?
Alors c'est séparé. Les catholiques s'occupent de la moitié des migrants, les protestants de l'autre. Ce sera le cas aussi pour l'accueil, leur suivi, leur intégration en Italie et le financement qu'implique ce dernier volet. Mais politiquement, c'est un front commun et tout le monde prend le même avion pour rejoindre Rome.
Et alors, la dernière soirée avant le vol, il y a une fête commune qui a été organisée.
Oui, vous avez bien suivi, Fabien. Quelques heures avant l'embarquement, tout le monde s'est rassemblé dans la cour de l'école Saint-Grégoire, où les cars affrétés pour l'aéroport étaient garés. On rassemble ses valises et on partage un dernier repas pour se réjouir et parfois se dire au revoir.
Ce soir, on va faire la fête, une petite fête, évidemment pour les amis qui doivent partir demain en Europe, en Italie.
Qu'est-ce que c'est ?
Ah oui, ce sont des plats syriens.
Vous appelez comment ?
Youssef.
Et vous travaillez alors pour ces couloirs humanitaires ?
Ouais.
Je vais regarder les plats, Youssef, allez-y, hein, servez-vous, parce que la nuit va être longue, hein, il faut manger.
J'espère qu'on a bien et le donne quelque chose à manger même, parce qu'on arrive à Rome à 7h du matin.
Ça va être long. Hein.
C'est un long voyage, oui.
Il n'y a pas de musique parce qu'on n'a pas trouvé le... En fait, on était un peu retard pour les visas, pour la dernière autorisation de la part de la Sûreté Générale Libanaise. Donc on est arrivé un peu en retard, on n'a pas pu mettre de la musique, mais je crois que maintenant, un ou deux garçons vont jouer le oud.
C'est quoi le oud?
C'est comme
une grosse guitare un peu, c'est ça?
Oui, oui.
Une grosse sitar en fait.
C'est un instrument typique d'ici.
Silvia Turati, une fête de départ sans musique, c'est pas une fête de départ. Donc là on voit en face de nous les cars avec les bagages qui sont déjà montés sur le toit. 4 gros cars qui vont emmener toutes les personnes autour de nous. On est combien ce soir?
On a 125 personnes qui vont partir. En fait, il y a peut-être 15 personnes environ qui nous rejoindront directement à l'aéroport. Et les autres sont tous ici.
Et on voit donc tout le monde qui est posé un peu partout. Hein. On est chez les jésuites, là on est dans l'école Saint-Grégoire. La nuit est tombée sur Beyrouth.
Là, on a les éclairages, on est dans ce préau de cette école. Il y a des enfants qui jouent au basket et des familles, beaucoup de familles avec leurs valises qui sont prêtes au départ. Je vous voyais mettre des petites étiquettes sur les valises.
Oui, donc nous, sur les étiquettes, on a écrit le nom de la personne et la destination finale en Italie. De façon que quand on arrive à Rome, tout est déjà organisé. Les bagages sont divisés par ville, par destination.
Et je voyais que vous avez mis plein de villes différentes. En fait, les gens n'arrivent pas à un endroit. Il y a Rome, évidemment, mais il y a aussi dans le nord de l'Italie, dans le sud. Vous avez écrit je ne sais pas combien de noms de villes différentes, mais c'était un peu partout en Italie.
En fait, on a au nord de l'Italie, on a des villes comme Torino, Padova, Genova, Gorizia, Milano, Arezzo, Toscana, et puis on a le sud de l'Italie, en Sicile. Ok, je vais juste voir avec une famille si tout va bien. C'est la famille de Marhaba, Kifkon, Kulutamam, Jazin. Quella Sahafi, min Svizzera, Kito Basse Salo. كيف تحسوا اليوم يعني بال
اليوم يعني فرحة لا توصف راح كما بيقولوا نعيش حياة جديدة إن الله راد.
Donc elles vont vivre une nouvelle vie si Dieu veut.
Là il y a les enfants autour de nous, l'enfant nous tendait un biberon. Ça c'est vos enfants ça.
Oui. هذول أولادك.
أولادي.
Qu'est-ce qui était difficile ici au Liban pour vous?
لا بالنسبة لهون الصعوبات أولا حرية مثل العادة ما في حرية العمل ما في معاملة الأشخاص جدا سيئة.
Donc ici la vie c'est difficile parce qu'il n'y a pas de liberté, il n'y a pas de liberté de travailler, pas de liberté de se déplacer de ville en ville parce qu'il y a les checkpoints. Donc si tu n'as pas de documents, tu ne peux pas te déplacer. Et les comportements des gens, des Libanais envers les Syriens, c'est très mauvais. Et en plus, il y a quelque chose qu'on peut appeler racisme.
Sylvia Turati, ça fait partie des familles vulnérables que vous accompagnez lors de ce couloir humanitaire.
Oui, une famille très vulnérable. Ils ont 5 enfants, donc 2 sont sourds-muets et 1 aveugle.
2 sourds-muets et 1 enfant aveugle.
1 enfant aveugle, oui.
Depuis combien de temps vous êtes au Liban?
Adesh sal kon bi Lebanon.
Ils
sont ici depuis 2012.
Ah ouais, depuis 2012, donc ça fait 5 ans qu'ils sont entre guillemets coincés au Liban.
Oui, c'est ça, voilà. En fait, les gens sont coincés ici parce qu'ils n'ont pas de choix. Donc, ils ne peuvent pas retourner en Syrie à cause de la guerre ou à cause de problèmes personnels. Et c'est très difficile d'obtenir un visa pour l'Europe. Et donc, où ils peuvent aller? Ils sont coincés ici.
En tout cas, vous êtes bien habillés. Vous tenez votre enfant par la main. Ça, c'est vos enfants aussi? Ils sont très turbulents, hein?
بيفرغ الطاقة هو
في كل بوش بوكو بس كل ne peuvent pas communiquer donc
bon vous avez appelé vous devez faire le discours c'est ça alors tout le monde s'est assis en rond sur les chaises en plastique il y a l'écrito benvenuti in Italia
benvenuti in Italia donc bienvenue en Italie où c'est écrit aussi en arabe alla wasala in conf Italia
vous allez leur dire quoi?
On va faire un discours sur le fait que ces gens ont de la chance parce qu'ils vont partir en avion et qu'il y a beaucoup de monde qui, au contraire, voyage sur des embarquements et ça, c'est très dangereux. On va donner l'air de courage pour l'Italie, pour le commencement d'une nouvelle vie.
Allez-y, oui, faire votre discours. Je vais... Allez, courage à vous. Je vous vois un peu comme ça, errer tout seul, en train de regarder un peu partout. Vous n'avez pas de famille, pas d'enfants. Votre valise est prête? Your luggage is ready?
Yes, my luggage is all set. Yes. And I'm ready to go.
Attention à ballon de foot. Est-ce que vous pouvez me montrer votre petite valise avec toute votre vie à l'intérieur?
Come. We're gonna laugh.
Ah, it's your name on the luggage. C'est, yes, c'est votre nom sur la valise?
Jaroum.
Jaroum. Ah, you have some perfume. Vous avez du parfum.
It's essential.
C'est essentiel, le parfum. Bon.
And Xbox is also very essential.
It's what?
Xbox.
Ah, c'est une Xbox. Non, mais attendez, dans votre valise, vous avez du parfum et une Xbox.
This is the clothes. And I got
vous avez des habits, des chaussettes. Ouais.
I organized them very neatly, so they could all fit.
C'est vraiment bien rangé. Les chaussettes sont en boule, les caleçons aussi.
Snow boots.
Snow boots.
Snow and rain boots. Took half of the...
For Italia.
Yeah, the Xbox and the boots took half of my...
Donc la Xbox et les chaussures de neige prennent toute la place dans la valise.
Et là, il y a un jeune qui écoute ses écouteurs et puis il a l'air triste. En tout cas, il a l'air de pleurer. Je vais aller lui demander ce qui se passe. Are you okay?
Actually, I'm a bit sad because I'm leaving Lebanon after 6 years. And it means for me a lot. I have many friends here, yani. And maybe I will not see them later.
Vous savez où vous allez en Italie et vous avez des informations sur là où vous allez aller?
Yes, Padova. 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 So, it's a small city, but so, yani, all the people, they told me it's a good city for the youth. I want to continue my study, so this city, it has very good universities.
Ajlab, Sraoui, Al-Talib, Al-Khalaf, Jamhoum.
Donc là, on fait l'appel pour voir que tout le monde est là. Les gens doivent lever la main s'ils entendent leur nom. Et c'est le dernier appel. Tout le monde est là?
Oui, tout le monde est là. Il va jouer un peu cet homme. Il va jouer un peu la oud.
Ah, il y aura quand même de la musique alors?
Oui, il y aura un peu de musique. En fait, il est un peu timide, il m'a dit.
Sylvia Turati, il y a des sourires ce soir en partant, en rentrant dans ces gros cars qu'on a en face de nous, mais il y a aussi des adieux, il y a aussi des larmes.
Il y a des sourires, bien sûr, pour cette chance de changer de vie dans un autre pays, mais en même temps, vous voyez, ces gens vont quitter ici leur famille, vont quitter ici leur pays, en fait, la Syrie qui est très proche de Liban, et donc ça, c'est difficile pour de s'éloigner de leur maison.
De dire au revoir à leurs proches qui restent, hein, parfois aussi.
Oui, de dire au revoir à leurs proches qui restent en Syrie ou qui restent au Liban. Et c'est très difficile parce qu'en fait, il n'est pas en voyage.
Ils reviendront pas.
Ils partent et ils ne reviendront pas. Ça me touche beaucoup parce qu'en fait, ça, c'est le dernier voyage. Donc, on a terminé ce projet et c'est le dernier groupe. Et voilà, c'est touchant en fait.
Tristan Michel, on entend des sentiments contrastés au moment de ce départ pour l'aéroport de Beyrouth. Certains se réjouissaient visiblement et d'autres, je pense notamment à ce jeune qui s'exprimait en anglais, hein, quand on entendait dire qu'il était triste de quitter ses amis.
Bah oui, ça fait six ans, qu'il était bloqué au Liban. Il y avait reconstruit sa vie, il s'y est fait beaucoup d'amis et craint de ne plus les revoir. Mais pour lui, à Beyrouth, il n'y a pas d'avenir. Il se réjouit d'aller à Padova, Padoue, pour poursuivre ses études. Mais je vous rassure, plus tard à l'aéroport, il a retrouvé le sourire avec les jeunes Syriens. On s'est tous échangé nos Facebook pour se donner rendez-vous une fois qu'ils auront trouvé leur marque dans leur nouvelle ville, dans leur nouvelle vie.
Mais là, au moment de ce reportage, vous attendiez donc le vol qui a démarré, enfin qui a décollé à 4h25 du matin.
Ça.
La nuit a été longue, hein, on l'imagine.
Très longue. Oui, imaginez-vous, 125 migrants syriens, plus les accompagnants avec tous les bagages, les enfants, l'immigration et les contrôles de sécurité à passer. Enfin bref, une fois arrivés dans l'avion, malgré les pleurs des enfants, on s'est tous endormis comme des bûches.
Grazie per l'attenzione e buon volo.
Ça va? Je vous ai réveillé. Vous étiez
étiez fatigué.
Oui, on est beaucoup fatigué.
C'était une grosse nuit, hein.
Et c'est pas fini.
Là, c'est le dernier vol. Vous avez assisté aux premières personnes qui ont été accueillies en Italie. Est-ce que vous avez tiré des enseignements?
Bah oui, en fait, on a compris que la motivation des gens à partir et se mettre en jeu, c'est une chose très importante. La motivation et la flexibilité, donc la capacité d'adaptation à un nouveau contexte. Ces caractéristiques sont très importantes afin que l'accueil en Italie peut marcher bien.
En tout cas, là, on voit que dans ce vol, il y a tout le monde qui dort autour de nous, hein. Mais on voit qu'ils sont motivés parce qu'il y en a même qui ont mis des costards, qui sont bien habillés et qu'on fait vraiment un effort pour arriver en Italie.
Vi ringraziamo per la scelta di volare con Alitalia e ci auguriamo di vedervi presto di nuovo a bordo dei nostri aerei. Arrivederci.
Sono arrivati proprio adesso da un volo di Milano.
Ciao. Ciao. Vai, vai, vai.
Buongiorno. Buongiorno, benvenuti.
Donc on est arrivé finalement. On est à l'aéroport de Rome, on vient juste d'entrer. Les dames en fait ont été accueillies avec des fleurs, les enfants avec des ballons, des jouets. Il y a un climat de joie, de convivialité. C'est joli.
C'est vrai que c'est joli ces fleurs. Et c'est...
Ouais, ouais, c'est très joli.
Et du coup, maintenant, il va se passer quoi? Tout le monde a l'air complètement fatigué. Les bébés ont beaucoup pleuré dans l'avion aussi.
Ah bah oui, parce qu'ils sont très fatigués. Maintenant, ils vont manger un peu, ils vont prendre leur petit déjeuner. Et je crois aussi qu'on va commencer tout de suite avec la prise d'empreintes.
Là. Ce qu'il y a derrière nous avec les blouses blanches, ils prennent les empreintes, c'est ça?
Oui, oui, voilà.
C'est... Ah oui, c'est la police, il y a des badges de police.
Oui.
Donc c'est le début de la procédure d'asile finalement.
Ouais. On commence immédiatement.
Ça contraste un peu le petit déjeuner, les ballons et les roses, et puis les grosses imprimantes avec la police pour prendre les empreintes. Il y a un contraste comme ça.
Bah oui, il y a un contraste, mais en fait, ce sont les procédures, il faut faire ça. Donc.
Gaëlle Courtens, on vient d'arriver avec le vol. C'est vous qu'on a eu au téléphone au Liban, à Beyrouth?
Oui, c'est bien moi, oui.
Le programme est terminé. Quelle est la suite peut-être? Est-ce qu'il y aura d'autres initiatives comme celle-ci?
C'est ce que nous souhaitons, bien évidemment. Saint-Égide a ouvert un canal à partir de l'Éthiopie avec des associations donc catholiques et avec la conférence épiscopale italienne. Nous allons voir si nous pouvons entrer d'une façon ou d'une autre dans ce canal-là. Sinon, effectivement, le prochain couloir qu'on va ouvrir va être probablement à partir du Maroc. Et certainement, le Liban va rester comme lieu de départ. Peut-être pas privilégié, mais en tout cas, un des lieux de départ, ouais.
Quel bilan vous tirez?
C'est absolument un succès. D'abord parce que c'est le premier projet de cette sorte en Europe. Et que si on faisait un petit calcul et que chaque pays de l'Union européenne, ou en tout cas de l'espace Schengen dont la Suisse fait partie, pouvait prendre en charge de cette façon un certain nombre de réfugiés, on aurait certainement une façon plus ordonnée et plus consonne au respect des droits de l'homme pour pouvoir aider ces gens qui ont le droit à la protection internationale, sans devoir risquer leur vie en mer ou de payer des passeurs, des trafiquants d'êtres humains.
Tu parles en anglais. Ok. Is the asylum request you have to sign? Okay. And after prepare your documents that we go to do the finger and the photos with the police.
You don't read?
He trusts me.
I trust you.
Yeah, it's your name. The date.
My city, the date.
Okay.
The nationality.
Yeah. Passport.
Airport, Beirut.
Because you're leaving from...
Yes, okay.
You arrived from Beirut. Passport and visa.
I agree.
Okay.
Where are you,
sir? Here, you have to sign.
We are waiting for a passport control.
تمام الحمد لله.
تمام. ناموا الأطفال ولا لا؟
لا أكيد.
ناموا. أنتوا ناموا كمان؟
كتير.
Donc je lui demandais comment s'est passé le voyage. Il m'a dit c'est bien passé, les enfants ont dormi, mais les adultes pas trop. Ils sont très fatigués.
Ils ont tous l'air bien fatigués, hein. Même ouais. Les enfants. Ils ont... je vais devoir vous laisser, je vous dis au revoir et puis bon courage pour ce nouveau départ. Alors, et si je reviens vous voir dans 2-3 ans, comment vous serez, vous pensez, dans le futur ?
Donc
ils vont s'intégrer, ils espèrent qu'ils vont s'intégrer dans la société et de vivre une vie normale, naturelle, comme tout le monde ici.
Bonne chance alors. Sylvia Turati, il faut rappeler que là, en fait, ils arrivent avec un statut de requérant d'asile. Ce ne sont pas encore des réfugiés, théoriquement. Ils doivent faire cette procédure.
Voilà, c'est ça. Donc, ils arrivent avec un visa humanitaire. Et ici, ils doivent présenter la demande d'asile.
Il y a peut-être une partie des migrants qu'on a autour de nous qui ne respecteront pas votre programme. C'est à peu près 15% des migrants qui ne suivent pas la procédure. Ceux qui veulent rejoindre l'Allemagne, après ceux qui veulent rejoindre la Suède. Parce qu'ils arrivent parfois dans des contextes aussi compliqués. Ouais. Il y a parfois des désillusions aussi au bout du voyage.
C'est un problème, parce que quand ils arrivent en Europe, en Italie, ils ont beaucoup d'illusions. Et après, ils découvrent la réalité. Et parfois, c'est très difficile pour eux de l'accepter. Et donc, c'est là qu'ils peut-être décident de quitter l'Italie pour essayer dans un autre pays. Mais en fait, la situation sera plus ou moins la même, en fait. En même temps, il faut se souvenir que beaucoup de ces gens ont des proches en Europe, en Allemagne, en Suède, en France. Donc, c'est normal qu'ils ont envie de les rejoindre.
Bon, moi, je me fais du souci pour vous. Alors, vous m'avez expliqué un peu ce que ces personnes allaient devenir. Mais vous, qu'est-ce que vous allez devenir, Sylvia Turati, maintenant que le programme est fini ?
Bah, moi, je sais pas. Je crois que je vais continuer dans les mêmes projets, pas des couloirs humanitaires, dans les projets des Mediterranean Hope, parce qu'en fait, on a aussi une base de travail dans l'île de Lampedusa.
Vous partez pour Lampedusa ?
Peut-être, oui, peut-être je vais partir pour Lampedusa. Et là, on voit la deuxième face de la migration. Donc ici, on a des gens qui arrivent avec des avions et là-bas, on a des gens qui arrivent par des embarquements. Ce sont des Syriens, donc on voit les deux faces.
Et je pense que la différence est quand même énorme.
Oui, bien sûr, la différence, c'est énorme. Et moi, je suis aussi très curieuse de voir ça. Ouais.
Bon, bah alors c'est à vous, je dois souhaiter bon courage aussi.
Merci, bon. Merci beaucoup.
Bon voyage, Sylvia.
Merci beaucoup. Merci.
Nous étions à l'aéroport de Fiumicino, à Rome, c'était il y a 2 jours, en votre compagnie, Tristan Michel. Alors, on entend à l'atterrissage, un double défi attend les églises. Bah, d'une part, bien sûr, il y a l'intégration de ces réfugiés dans leurs différents lieux d'accueil en Italie. Et puis aussi, on entendait, il y a cette négociation avec le gouvernement italien. On est à quelques mois des législatives, ça s'annonce assez compliqué, pour éventuellement réitérer le programme.
Oui, et puis, il faut aussi obtenir de nouveaux financements, notamment par le biais de cet impôt, le 8 per mille. Et plus largement, c'est de tenter d'ouvrir d'autres couloirs humanitaires en Europe. Saint-Égidio a d'ailleurs signé un accord analogue avec la France pour l'accueil de 500 migrants. Les premiers sont arrivés en juillet dernier. Saint-Égidio qui a lancé également une opération similaire avec l'Éthiopie pour 500 visas d'urgence à destination d'Italie. Et je crois également savoir qu'il y a des négociations en cours avec l'Allemagne, les Pays-Bas, la Pologne, l'Espagne, avec plus ou moins de réussite.
Et pour la Suisse ?
Alors en Suisse notamment, ça bloque un peu. Le conseiller national socialiste Carlos Omaruga a déposé une motion en ce sens. Motion pas encore traitée par le conseil national, mais dont le conseil fédéral a proposé le rejet. Mais peut-être que le bon déroulement du programme italien apportera de l'eau au moulin de ceux qui œuvrent pour l'instauration de ces ponts entre les zones de conflit et l'Europe.
Merci beaucoup Tristan Michel pour ce reportage et ce dossier sur les couloirs humanitaires entre le Liban et l'Italie. Si vous souhaitez réentendre ce dossier, vous pouvez le faire sur notre portail thématique rtsreligion.ca.